veux du court, du long, du classique, du docu, de la réalité virtuelle et même des films de fesses? Au rendez-vous du cinéma québécois, on a du bon stock. 340 films, 110 premières, 30 événements gratuits, des leçons de cinéma, du Louis-José Houd, de l'impro, du Anne Dorval, un show la nuit, des DJ, du ding et dong et des activités pour toute la famille. C'est LE moment où on célèbre nos films québécois et où on rencontre leurs artisans. Du 22 février au 4 mars, c'est LE rendez-vous du cinéma québécois. Puis cette année, il y a vraiment du bon stock. Visite lequebeccinema.ca.
Choc.ca t'invite à découvrir le cabaret festif de la relève. Volet concours du festif de Baie-Saint-Paul. Un véritable tremplin pour la relève dans lequel 12 finalistes se disputent plus de 15 000 $ en bourse, en prix et en visibilité partout au Québec. Du 6 au 10 mars, rendez-vous au www.lefestif.ca/cabaret pour visionner les performances des 3 finalistes web et voter pour celui que tu voudrais voir en finale. Le cabaret festif et Choc.ca font la paire pour la relève.
Pour faire le plein de nouveautés musicales, c'est au Francouverte que ça se passe. Du 20 février au 8 mai, réservez vos lundis pour découvrir les 21 participants de la cuvée de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Sur scène, 3 artistes ou formations par soirée, en plus d'un invité surprise. Pour tout savoir sur la programmation, visitez francouverte.com. Cette année, quels seront vos coups de cœur musicaux? Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
Les productions Nuit d'Afrique présentent la 11e édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes en musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 12 avril au club Balatou. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidor.com.
Minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission Du Coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
What are the day? Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 129 de Pop en Stock Radio. Mon nom est Jean-Michel Berthion, mais j'aimerais vous accueillir dans le fantasme final pour les gens qui n'auraient pas vu les libellés. Concernant la thématique de la journée, nous allons parler de la série qui célèbre cette année son 30e anniversaire. C'est quand même intéressant de savoir que le premier titre de Final Fantasy a été publié en 1987. Final Fantasy, de son titre original, Finaru Fantasy, est une série à succès. Pour les gens qui ne seraient pas du tout familiers avec cette série de jeux RPG, donc des role-play games, je vous inviterai à faire une petite recherche sommaire avant d'embarquer dans l'émission, parce que je pense qu'avec le panel qu'on a aujourd'hui, on va rentrer dans les détails. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ici, à Pop en Stock, la présentation des panels ira comme suit. Je vais dire bonjour à Alexandre Poirier.
Allô?
Comme, hop, je t'ai...
Oh, non, oui, allô? Oh.
T'es très là.
Oh, je suis là, hein?
Ouais, t'es allô? Très là. Et sans te mettre directement sur la croisette ou te mettre le follow spot dans le visage, c'est qui ton personnage préféré?
Ah oui, c'est vrai.
Finaru Fantasy.
Je pense à ça. Écoute, mon personnage préféré, c'est un personnage d'un Final Fantasy auquel j'ai jamais joué, fait que c'est pas... Ça, bon, c'est,
t'avais ça change pas besoin de le révéler.
Ah, j'avoue, hein. C'est pas grave. C'est Vivi dans Final Fantasy IX, juste parce que c'est un Black Mage. Bon, il fait de la magie, il est petit.
C'est-tu avec celui avec le gros manteau noir? Ouais.
Ben, il y a un gros manteau bleu, il y a un grand chapeau jaune.
Pas de face.
Pas de face avec deux gros yeux jaunes.
Il y a un peu de l'air d'un Jawa, mais c'est un Jawa, Gandalf, puis la palette de couleurs de Mario Paint.
Mais il tue du monde avec du feu au lieu de voler des droïdes. C'est pas mal ça.
Mais je trouve ça le fun parce que je ne savais pas qu'il y avait un nom.
Oui.
Il s'appelle
Vivi.
Vivi
Ornithier. Est-ce une femme ou un homme? Ou une...
C'est pas spécifique.
Gender fluid.
Gender fluid, yeah.
Oh yes, vous avez entendu la voix caressante du développeur Christopher Chanty. Hello!
Bonjour tout le monde.
J'aime beaucoup ta voix.
C'est gentil.
Ouais. J'édite les émissions, fait que j'ai l'opportunité de revivre ta voix à nouveau.
Wow.
Puis là, fait que là j'ai déjà des frissons, fait que ça va être le fun quand je vais recommencer.
Good.
Ton personnage?
On y est pas, c'est Cloud Strife.
Sérieux?
Ouais, y a-tu vraiment un personnage meilleur que ça?
Ah oui, c'est vrai que c'est un peu la... Ouais,
on l'écarte rapidement parce qu'on veut pas être trop mainstream, mais...
Ouais, c'est un peu aussi la...
Sephiroth.
Ouais, aussi, effectivement, c'est un excellent personnage.
Mais on pouvait pas avoir une autre réponse, parce qu'aujourd'hui, tu viens nous parler de comment Final 7 est le meilleur Final...
C'est très proche de mon cœur.
Et même possiblement le meilleur jeu vidéo de tous les temps.
Ever.
T'as un auditoire à convaincre. Et t'as aussi Loïc Minot. Bonjour.
Oui. Allô.
Comment ça va?
Ça va bien, à part que je suis vraiment pas convaincu que FF7, c'est le meilleur ever.
Donc, ouais, moi non plus. Oui. En tout cas, je sais pas pour le Final Fantasy, mais le meilleur jeu de tous les temps. Je sais pas, mais c'est peut-être un débat pour une autre émission, parce que sinon, on va être ici encore demain matin.
On va faire un radioton autour de cette thématique-là. Oui. Mais c'est le fun, parce que quand on se retrouve, nous autres, bon, Loïc, bienvenue à Pop en Stock, premièrement. Allô. Vraiment heureux de te faire ta connaissance.
Un futur habitué.
C'est souvent quand c'est cette tablée-là qu'on se retrouve à avoir des débats, qu'on dit « Ah, ça va durer le restant de la journée si on se met à... » C'est oui. Souvent comme ça. Loïc, la meilleure façon de te faire connaître par nos auditeurs, c'est de dire c'est qui ton personnage préféré.
Ouais, ben moi c'est Tifa, donc juste pour pas être original, pour être un peu original puis pas mainstream, c'est Tifa. Principalement à cause de sa scène de fighting dans FF7 Adventure
Ouais,
en fait.
Ouais.
Wow, j'étais convaincu que c'était une blague pré-émission, ça. J'ai vraiment sorti Tifa de n'importe
où. Ouais, ben je sais, tu l'as sorti de nulle part, puis moi j'étais comme, oh.
J'aime particulièrement la reprise au piano.
Oui,
de la chanson, du thème de combat. Bas dans le film. Parenthèse comme ça.
On terminera sur ça.
Ouais. Mais n'empêche que encore un autre personnage de Final Fantasy VII. Come on, décrochez un peu. Là.
Excellent point. Parce que ma réponse étant vraiment niaiseuse, j'aime beaucoup Cid. Parce qu'il est comme...
Partout.
Exactement, tu sais. Hein,
il est tout le temps là. Tu dis Cid. C'est ton personnage préféré, Cid.
Ah, c'est cool.
C'était-tu si évident que ça?
Non, mais Cid est dans tous les Final Fantasy.
Oui, exactement, c'est ça, excuse, parce que la façon que tu le traitais, c'était comme, ben, tu trouves quelque chose...
Mais non, mais tu dis Cid, fait que tu peux pas te
tromper.
Quelle
version, genre.
Exactement. C'est comme, c'est qui ton docteur préféré? Ben, c'est le docteur. Tout le monde est comme, ben, t'as un peu contourné la question. Fait qu'on va y aller dans le vif, mais en fait, Loïc, toi, tu viens de parler du 15.
Oui, du 15, exact.
Exactement, qui est sorti, là...
Le 29 novembre.
C'est ça, on a un peu appris de nos erreurs par rapport à Grand Theft Auto, on a laissé un peu de temps. Entre la sortie du jeu et l'émission potentielle qui va se passer dessus. Mais il n'y a peut-être pas assez de temps pour encapsuler ton amour pour le 7. Fait que Chris, je t'entends partir.
Tu veux que je parte le bal?
Ben c'est que, tu sais, je me rappelle la crise du verglas. C'est aussi bizarre que ça. T'sais, la crise du verglas au Québec, pour moi, est intimement liée avec Final 7. Parce que j'étais de cette... Parce qu'il est sorti pendant... Ah, c'est ça. Puis tout le monde était... Il y avait les maisons qui n'avaient plus de courant, paniquaient.
Parce qu'ils pouvaient pas jouer.
Exactement, mais moi, j'avais du courant chez moi. En fait, la moitié de ma maison, le devant, ça fait que le salon, ma chambre, pas la cuisine ni la salle à manger, eux autres, il y avait pas de courant. Mais comme...
C'est les endroits pertinents.
C'est ça, tu sais, la place où on jouait à des jeux vidéo, il y avait du courant. Ça fait que tout le monde était comme... Ah ben les réparations sont pas faites ou le courant est pas revenu encore, t'es-tu en train de jouer à Final 7? Comme ouais, puis là il venait chez nous puis on levelait up des jewels, tu sais. Fait que c'est comme très relié à ça. Fait que je suis comme très curieux d'entendre ce que t'as dit.
Ben je faisais un peu de recherche justement pour me préparer pour ça hier, puis juste en faisant la recherche, j'avais les feels partout à terre. Ça venait me donner une nostalgie des émotions que je vivais quand j'avais 8 ans puis que j'avais joué Final Fantasy VII pour la première fois. Fait que je me suis dit que j'en parlerai aujourd'hui, puis on va aussi introduire un peu le remake qui s'en vient. Je pense que le premier opus, c'est à fin 2017, novembre, il me semble.
Fait que d'après moi, 2027.
Ouais, c'est ça. Si on suit au passé. Mais ouais, c'est ça. Fait que ils ont annoncé au E3 en 2015 qu'ils allaient faire le remake, dans le fond, de mon jeu préféré, en fait, sur la PS4. Puis ça a pris énormément de temps avant que le remake qui se fasse. Ça faisait déjà au moins genre 10 ans qu'ils en parlaient de... que les rumeurs circulaient qu'ils allaient faire ça, mais ça se concrétisait jamais.
Depuis la démo technique, en fait, pour la PlayStation 3 en 2005, ils commençaient déjà à en parler. Puis,
ouais.
C'est affreux, là.
Ouais, puis genre, j'essaie de retrouver justement les premiers articles, puis ça a monté jusqu'à 2000-2001. Là.
Ouais.
J'ai regardé aussi un peu des entrevues avec les développeurs pour savoir, dans le fond, pourquoi ça avait pris autant de temps. Puis il y en a beaucoup des leads, en fait, qui avaient travaillé sur FF7, qui avaient comme peur de toucher à ça parce que le RPG était tellement devenu gros puis un classique que d'y retoucher, c'était un peu comme retoucher un film qui est comme Ben oui, un c'est, genre de...
c'est comme Gus Van Sant qui a refait Psycho, tu sais.
C'est, ouais, c'est ça, juste... ouais. C'est pas nécessaire, fait que pourquoi le faire, tu sais. Puis on connaît aussi un peu c'est quoi des fandoms problématiques, fait qu'on peut savoir aussi que ça devient dangereux quand on touche à quelque chose qui est aimé de tous.
Ben oui.
Donc c'est ça, les gens ils sont quand même wise chez Square Enix, là. Ils ont sorti des produits dans le même univers que FF7 dans les dernières années pour profiter de la popularité de l'univers du Final Fantasy VII, qui était le deuxième jeu le plus vendu sur la PlayStation 1 en passant.
Pis c'est quoi le premier?
Gran Turismo.
Yes!
Ah ouais!
Ouais. Mais Gran Turismo, il venait avec les PlayStation. Ah, ouais. C'est comme biaisé un peu.
Non.
Non?
Non. C'est pas vrai, ça.
Ça, c'est, quoi, quand, c'est comme quand Prince a donné un album à chaque fois que t'achetais un billet pour un de ses shows. Fait que son album était toujours numéro 1.
Ouais, c'est ça. Ouais, mais...
ou que t'avais une toune de U2 quand t'achetais un iPod. Ouais. Bref.
J'étais classé avec Prince. Toi, ouais, t'as c'est ça. Non, complètement trashé ça avec U2. C'est terrible.
Fait que c'est ça, quand même, plusieurs années après FF7, ils ont sorti le film Advent Children. Il y a le jeu mobile Before Crisis, puis le jeu sur PS2 Dirge of Cerberus, qui étaient tous dans l'univers de FF7, puis qui ont quand même chacun eu une petite surge de popularité, chacun leur tour, dans le fond. Puis avec tous ces produits-là, dans le fond, ils ont fini par prouver qu'il y avait toujours un public pour cet univers-là, puis ils ont fini par faire le remake, je pense.
Ouais. C'est-tu si évidemment rétro?
Ben, j'ai l'impression qu'il avait peur de retoucher au classique.
Oui.
Puis qu'au fur et à mesure de faire les produits qui environnaient FF7 dans son univers, ils se sont rendus compte que genre c'est une cash cow qui pouvait pas, comme,
ouais.
Qui pouvait pas passer.
Moi, puis on y reviendra tantôt quand on va parler de Final Fantasy XV, mais le libellé un peu quand tu commences Final Fantasy XV, t'as un écran qui apparaît « A Final Fantasy for first-timers and fans alike
okay. ».
Moi, Final Fantasy, mon rapport avec cette série-là, j'ai toujours été un peu extérieur à ça. Le Final Fantasy VII, j'étais en périphérie de ce buzz-là, notamment parce que, probablement contrairement à Chris, moi, à l'âge de 8 ans, je ne parlais pas un maudit mot en anglais. Fait que mon summum, c'était justement Gran Turismo.
Je comprends.
Et Crash Bandicoot. Ça, c'est ce qui a bercé ma jeunesse. C'est ces deux jeux-là. Moi, je pense que le buzz autour du 7, la raison pourquoi ça a été un des jeux les plus vendus de la série, c'est parce que c'est le premier Final Fantasy en 3D. Puis ça a été un titre de qui était avec la sortie de la PlayStation 1. C'est probablement pour ça, parce que en tant que tel, et là, j'ai une bonne assurance vie, ça va, mais Final Fantasy VII, ça a très mal vieilli.
Ça a mal vieilli, ben oui.
Mais il y a des jeux qui sont plus vieux que ça encore, qui ont super bien vieilli. Je pense que...
Dans le 3D?
Non, pas dans le 3D, justement.
Pas dans le 3D, c'est mais faudrait que je retrouve... Mais Dominique Arsenault a sorti un article, justement, récemment, pour dire que la 3D polygonale, ça vieillit beaucoup moins bien. Ben ça, c'est quand même évident, mais qui explique les raisons que la 3D a évolué, a vieilli moins bien que, justement, le pixel, le sprite, etc. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont dire que le 6 est de loin supérieur au 7.
Mais est-ce
je
que,
sais pas,
est-ce
moi, qu'on je, juge moi je rapporte des faits parce que j'ai jamais joué au 6 de ma vie. Le 7, je sais qu'il y a du monde qui meurt puis qu'il y a une thématique écologique, mais tu sais, c'est essentiellement
mais,
ça.
Tu vois, moi c'est l'inverse un peu. J'ai été frappé de plein fouet par le 7. J'étais exactement dans le bon buzz au bon moment dans ma vie. Puis l'histoire m'avait vraiment, tu sais, m'a vraiment accroché. Puis j'ai joué dans le fond le 60 heures pour la campagne tout le long, toutes les petites side quests, le kit. T'sais. Puis mais c'est intéressant que tu dis, on va y revenir parce qu'en fait j'arrive sur le tech derrière tout ça. En fait, juste un petit mot parce qu'il faut le dire, même si la majorité des gens savent, l'histoire du nom Final Fantasy est essentiellement arrivée à cause que c'était la dernière chance de la compagnie Square. De faire un coup d'argent avant d'avoir à fermer leur porte
Je me posais la question que si dans parce qu'on en parlait au début avant l'émission qu'il y a 86 il y a 87 titres de Final Fantasy puis je me demandais si on pouvait arriver à cerner c'est quoi le fantasme final, puis merci de la réponse.
Mais c'est ça, c'était leur dernière chance de faire du cash, leur dernier jeu qu'ils avaient en tête, puis leur dernier espoir, en fait. Fait que c'était leur Final Fantasy. Et puis, fait qu'il y avait comme une certaine désespération, désespoir, derrière tout ça. Puis, ce qui est intéressant avec le contexte de création de FF7, c'est qu'il y avait aussi un peu de ça quand ça a été créé, parce que Square venait tout juste d'arriver en bourse au Japon. Et donc, il y avait besoin de faire un gros coup d'éclat pour sécuriser, dans le fond, plus de financement, puis être capable de dire à tout le monde qui les avait backés, dans le fond, vous avez fait la bonne affaire, tu sais. Fait qu'ils ont eu vraiment le paquet côté argent, côté technologie.
Côté marketing aussi.
100%. Ouais. C'est le premier qui a été autant poussé dans le Western
puis
world.
Puis dans le Western, justement, pubs, c'était... ben, tu parlais du côté technique. Dans toutes les pubs, c'était toutes les cinématiques presque 3D back-à-back.
Ouais, parce qu'il faut penser, les jeux 3D commençaient à sortir à ce moment-là. Puis eux, par exemple, aussi, avaient jamais fait un jeu 3D avant, FF7. Leur dernier jeu, ça avait été Chrono Trigger. Fait que c'était le premier aussi opus où est-ce qu'eux, ils exploraient une nouvelle technologie.
Ouais.
Donc justement, d'un point de vue technologie 3D, c'était dans les débuts, puis Square avait jamais fait comme ça avant, puis il y avait aussi des nouveaux développeurs chez Square qui commençaient à grimper les échelons, notamment Yoshinori Kitase et Tetsuya Nomura, qui avaient un background qui était beaucoup plus lié au cinéma puis aux arts visuels, et qui ont donc dirigé le projet vers un peu du contenu un peu plus visuellement attrayant, avec une trame narrative puis un gameplay un peu plus cinématographique. Aussi, Square, qui avait toujours été associé à Nintendo jusque-là, avait maintenant un choix à faire entre la N64 puis la Sony PlayStation. Et ben, ils ont fini par y aller avec la PlayStation exclusif pendant super longtemps, d'ailleurs. Même aujourd'hui, en fait.
C'est important de mentionner qu'à cette époque-là, on était en plein milieu d'une guerre de format entre la cartridge et le CD.
Exactement. C'est une guerre transitionnelle, en fait, parce que la guerre était pas faite. La guerre a commencé du moment où Square Enix a décidé de se dissocier de Nintendo.
Ouais, okay.
Probablement à cause de ses politiques un peu...
C'est aussi pas...
Il y a une raison de mémoire derrière tout ça. Ouais, il y a des raisons technologiques pourquoi ils sont allés avec PlayStation. Parce que le format, comme tu dis, cartridge versus CD-ROM, le CD-ROM permettait... d'avoir beaucoup plus de stockage de mémoire que sur une cartridge. Et de deux, ça permettait aussi que la trame sonore puisse utiliser plusieurs instruments en même temps. Fait que justement, vu qu'on voulait y aller avec quelque chose d'un petit peu plus cinématographique, on voulait y aller avec quelque chose d'un peu plus, dans le fond, d'orchestral. Fait que c'est pour ces raisons-là, en fait, qu'ils ont fait un jeu qui durait 3 CD. Je me rappelle, en fait, quand j'avais acheté FF7, j'ouvre la pochette, il y a 3 CD. Tu sais, j'avais joué à des jeux de PlayStation avant, là, mais j'ai 3 CD devant moi, je suis comme, comment ça va marcher, ça? Je peux pas rentrer 3 en même temps.
Ben, c'est le genre de
j'avais
truc que
8 ans, tout le monde, OK.
Ouais, mais tu peux pas faire ça avec une cartridge. La cartridge ne pouvait pas permettre la compréhension. Elle ne pouvait pas lire que ta console elle avait déjà terminé la première cassette.
Non, c'est ça. Puis la N64, ils ont sorti un bidule par la suite qui était comme le Memory Pack.
Ouais.
Puis là, je pense que genre avec des jeux comme Jet Force Gemini et des choses comme ça, où est-ce que tu pouvais comme reprendre un deuxième jeu, des informations d'un jeu précédent. Il y avait des choses comme ça.
Mais il fallait qu'il y ait comme une sauvegarde qui se fait dans un espèce de petit disque dur.
Ouais, puis ça s'est fait beaucoup plus tard quand même. Ouais. Là, on parle de la sortie, en fait, des consoles. Ouais. Fait que voilà les raisons technologiques, en fait, pourquoi FF7 a comme pris cette forme-là. D'un côté, artwork aussi, sur CD, c'était possible de mettre des cinématiques qui étaient beaucoup plus définies que sur cartridge, de quelques minutes, avec une qualité supérieure. Puis, Tetsuya Nomura, à ce moment-là, c'était le character designer, en fait, pour le jeu. Puis, c'était la première fois que Nomura avait l'opportunité de faire des personnages qui étaient plus photoréalistes, parce que jusque-là, ils utilisaient juste du 2D, puis c'était tout pixelisé en 8-bits, fait que les proportions étaient pas réalistes, puis ils utilisaient des couleurs un peu plus flashy, puis des choses comme ça. Tandis que là, pour la première fois, ils pouvaient créer un univers un peu plus réaliste, un peu plus grunge, un peu plus, tu sais... je l'appelle Arcana Punk, un peu...
C'est beau, ça!
Diesel Punk.
Ouais, c'est... Ouais. Tu sais, il y a de la magie, mais c'est très... c'est très motorcycle and leather. Ouais.
Manum,
ouais.
Quand tu le dis de même, là.
L'autre truc aussi, ben, c'est comme j'ai dit, pour la musique, ça permettait... d'utiliser plusieurs instruments en même temps versus la cartridge. Nobuo Uematsu, qui était le compositeur de plusieurs des Final Fantasy, puis je pense que juste à maintenant, ils ont toujours utilisé Nobuo parce qu'il est débile.
Je suis pas certain pour le 15.
Wow.
Ça se peut qu'il ait utilisé quelqu'un d'autre. Ben, remarque, le 15 a tous les soundtracks de toute façon. Là, fait que...
Oui, de toute façon. Mais non, c'est ça. Puis en plus, ça me fait penser en fait que c'est vraiment la faute à Nintendo si Final Fantasy ne s'est jamais continué son ascension.
Parce qu'à l'époque, la PlayStation, d'ailleurs, ben pas la PlayStation, la PlayStation devait être un lecteur CD.
En fait, Sony travaillait sur un lecteur CD pour intégrer à la prochaine console Nintendo. La 64.
Mais c'est Nintendo qui a craché au visage à Sony, en fait.
Exactement.
Qui a dit on reste avec les consoles. J'en veux pas, finalement. Fait qu'on décide de faire...
Les cartouches, c'est le futur.
Ben là, avec la Switch, ils reviennent, là, mais ça, c'est une autre... C'est un autre débat.
C'est pas le futur, ils reviennent.
À venir bientôt, les amis, émission sur Nintendo, on sait pas quand. Mais ça s'en vient, on n'aura pas le choix.
Bon, ça sera pas un débat de 6 heures, non, ça arrête donc. Non, c'est drôle parce que le monsieur dont vous parlez.
Nobuo Uematsu.
Oui, exactement. A été le Chief Music Composer jusqu'en 2004.
Ah oui?
Il a claqué la porte en 2004.
C'est possible, mais j'ai l'impression qu'il est quand même en périphérie.
C'est très possible.
Ça se peut.
Mais
pour les gens qui ont un ordinateur devant eux, il a toute une moustache.
Oui.
J'ai un ordinateur, mais pas de Wi-Fi.
Il est super sympathique. C'est vraiment...
Tout un cerveau aussi. Un génie, ce monsieur.
Musical, ouais.
Ouais. Puis en fait, ça, je ramène tout ça, puis ça rejoint un peu ce qu'Alexandre disait tantôt par rapport au fait que Final Fantasy VII, c'était un des premiers où ils ont mis l'accent beaucoup sur l'immersion fictionnelle au lieu de l'immersion du gameplay, en fait. Ils ont mis beaucoup plus d'accent sur les affects...
Des tragédies.
Pour vraiment que tu rentres dans leur univers, puis que tu t'attaches à cette histoire-là, tu t'attaches au personnage. Chaque personnage avait comme, justement, chacun leur petit bout de lore vraiment intéressant dans le jeu. Il y avait beaucoup de place pour chaque personnage de grandir. Fait que c'est drôle tantôt qu'on a nommé des personnages de FF7 comme nos préférés, mais c'est un des FF où est-ce que, justement, ils ont donné beaucoup, beaucoup de place aux personnages pour qu'ils puissent, justement, se développer un peu comme une télésérie, tu sais.
Ouais.
Des films, c'est dur de s'attacher aux personnages. Une télésérie, tu sais, quand sur Walking Dead, quelqu'un meurt ces temps-ci, je suis comme un peu down.
Ouais, ça, si tu continues à écouter ça, mais
ouais, non, trois c'est ça. Saisons. C'est vrai qu'après trois saisons, il fallait que tu skippes jusqu'à la dernière.
Non, c'est ça.
mais je trouve ça très intéressant parce que c'est... T'as-tu fini tes...
Ah, j'ai plein de choses à dire, moi, sur FF7.
Cette idée-là de... Parce que je peux piggyback sur cette idée-là de d'attachement au personnage.
Mm-hmm.
Je sais pas si tu te rendais jusqu'à là, mais il y a cette idée-là aussi que Final 7 est sorti en Amérique du Nord, ou du moins peut-être même pour le Québec, là, je veux pas tant généraliser que ça, à peu près à l'époque où ce que l'Internet commençait à être dans les maisonnées.
Ouais, ben ouais, c'est popularisé, là, ouais.
C'est ça, puis c'est... Tu sais, je me rappelle que Final 7, ça a été... ça a été quand même excessivement populaire à sa sortie. Je me rappelle du bouche-à-oreille, il était quand même très fort. Mais il y a eu une espèce de... C'est la première fois pour un jeu vidéo que j'entendais des gens dire « Va sur GeoCities, il y a une façon de conserver Eris. »
Je pense que la montée du walkthrough puis des Game forums FAQs. De discussion, ouais, c'est ça, Game FAQs ou Cheat CC, là.
Ben, c'est ça.
Ça s'est fait à peu près en même temps. Ça a peut-être aidé aussi à la popularité de...
Ben, moi, j'ai commencé à naviguer l'Internet en cherchant des trucs sur Final, sur Final, tu sais, de faire comme, c'est quoi les spells qui max out le mieux par rapport à qui, quoi. C'était ce jeu-là qui m'a présenté à ce monde-là. Puis toute cette idée-là de comme, il y a la façon, aussi, à la limite, je dirais peut-être même le creepypasta a commencé là avec le, tu peux trouver une façon de ramener Eris, mais elle est morte à l'intérieur, puis elle fait un spell noir, puis t'es comme,
c'est légende urbaine.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
Mais il y avait plein de légendes urbaines, puis on était tous, il fallait le Game Shark, ou il fallait des choses comme ça.
Mais ça a commencé avec 7.
Mais il y avait beaucoup de choses secrètes, en fait, dans le 7. Ouais. Il y avait des personnages complètement optionnels, puis ils étaient comme fleshed out, puis vraiment complexes, les personnages, le Vincent Valentine.
Ben,
tu peux même pas le, il y a des gens qui jouaient au jeu, puis qui finissaient pas par le pogner, tu sais. Ou Yuffie, c'était comme des personnages optionnels, c'était comme pas du jamais vu, mais c'était très rare.
Mais il y avait ça dans le 6e aussi, me semble, dans le sens
que. Des personnages optionnels.
Après que le monde explose, tu peux aller récupérer des personnages, mais t'es pas obligé de tous les récupérer.
Mais c'est les personnages que t'as déjà rencontrés.
Ouais,
c'est ça.
Mais c'était pas... mais je suis d'accord, vraiment, là, j'avais pas pensé à l'affaire de l'Internet. Je pense vraiment que ça a comme canalisé tout le monde.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est que là, on pouvait se partager.
Une communauté qui s'est créée, en fait, là, peut-être beaucoup plus fort vu que l'Internet est arrivé en
même temps. Tu peux te partager, tu sais, t'es arrivé à la cour d'école, puis là, c'était comme, hey man, j'ai trouvé une manière de, savais-tu qu'il y a ça, là? Puis le jeu sortait de l'expérience intime entre toi et la télévision, ça devenait quelque chose d'un peu plus social. C'est avant Pokémon.
Il y a quelque chose d'un peu nostalgique aussi avec le fait de, tu sais, je me souviens, il y a des amis qui traînaient des feuilles de papier mobile, là, avec des solutions pour faire des donjons, puis on parlait de ça dans le cours d'école, puis on jouait à Final Fantasy VII dans le cours d'école, puis je pouvais jamais être ici parce que ouais, whatever, là, tu joues un personnage puis tu te bats contre des monstres imaginaires là, mais
ça fait plusieurs émissions que tu fais à Pop en Stock.
Moi, ça?
Ouais.
Oui.
C'est la chose la plus adorable que je t'entends dire.
C'est vrai?
Ouais, je
attends, on va parler de la bouffe, enfin.
Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelque chose de... Excuse-moi, mais je pensais à ça, l'Internet, non, le
vraiment,
partage.
C'est vraiment intéressant, j'avais pas pensé du tout, mais c'est vrai que côté technologie, en fait, le fait d'être capable de créer une communauté aussi rapidement, c'est sûr que ça a joué.
Puis il y avait des gens qui trippaient.
StarCraft est sorti pas mal dans le même temps, puis c'est un petit peu le même phénomène, en fait. Là. Tout le monde pouvait soudainement se rassembler à cause de l'Internet. C'est très vrai. Fait que c'est ça, je trouvais que l'accent il était beaucoup plus en fait sur la narration dans FF7 puis sur dans le fond tout ce qui était fiction, puis c'est peut-être pour ça aussi que ça l'a pas rejoint Alexandre autant
mais parce qu'il était pas capable de lire. Juste pour pas oublier mon idée, pour faire revenir juste un petit peu avant, probablement que on pourrait dire que Final Fantasy VII a amené au fandom lié au jeu de rôle ce que StarCraft a amené au e-sport. Carrément. Moi, je suis prêt à faire cette conclusion-là.
Ouais.
Même si je trippe pas Final Fantasy VII, mais je pense que je suis prêt à amener cette conclusion-là. Je pense que l'engouement...
C'était devenu la barre.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ouais, je suis pas mal de cette idée.
C'est vraiment le JRPG qui a importé le JRPG en Occident. Ouais. Là.
Mais qui a démocratisé le RPG, ça. Parce qu'avant ça, c'était un peu obscur. Là. Ben, veut pas, tu sais, Chrono Trigger,
très
même
geek,
si...
C'est
ça, c'était vraiment geek. Puis Final Fantasy VII, je veux dire... T'sais, j'ai un de mes amis qui était, je sais pas, pour pas aller dans les préjugés, mais... Non, mais qui était genre sportif, qui jouait au hockey, qui jouait au soccer, mais il jouait à Final Fantasy VII. Puis... Non, mais...
Parce que
moi, j'étais pas sportif dans la vie, là, fait que je sais pas, là, j'ai de la misère à associer sport et jeux vidéo, mais bon, peu importe. Mais non, c'est ça, puis c'est ça, ça a rendu ça, ça a démocratisé le JRPG comme StarCraft a amené la culture du sport électronique... à un autre niveau.
Yeah, clairement, clairement. Puis voilà, c'était essentiellement ce que je voulais dire, c'était que l'accent avait été mis beaucoup plus sur l'histoire que sur le gameplay, parce que le gameplay, je veux dire, qu'est-ce qu'il y avait vraiment d'unique avec FF7, c'était le système de matéria, qui était, que dans le fond, ils infusaient les magies dans leur équipement, fait que la progression passait 100% à travers les magies et l'équipement, mais il y avait les level up, mais c'était beaucoup, beaucoup à travers, dans le fond, l'agencement puis les synergies possibles.
Le plaisir était là aussi.
100% dans le combat, mais tu sais, c'était quand même, c'était pas 100% innovateur par rapport au combat précédent, il y avait quand même genre, tu sais, c'était un peu turn-based, mais c'était semi-turn-based en fait, là, mais ouais.
La TB.
Ouais, c'est ça. Fait que voilà, en fait, ils ont comme mis de côté un peu plus le gameplay pour justement focusser sur le cinématique, le feel, la musique, l'histoire, puis j'ai l'impression que c'est à cause de ça que moi, à cet âge-là, j'avais 8 ans, j'étais très influençable, puis ça m'a vraiment, vraiment beaucoup touché. J'avais braillé quand Iris était morte.
C'est ça, c'est quand même important, là, tu passais par-dessus.
Non,
mais
non,
c'est...
il faut le mentionner, là,
ben oui.
Je l'ai tatoué sur le bras, là, c'est la première fois que moi, j'avais ressenti une émotion.
Sérieux?
Ben oui. Ouais.
Ah, c'est pas une joke quand il disait
non,
ça.
Non, c'est mon jeu préféré.
Avant le début de l'émission, là, c'est ouais, ouais. Là.
Non, mais c'est la première fois que moi j'avais ressenti une émotion en jouant à un jeu vidéo à ce point-là, en fait. Puis c'est la première fois que j'ai réalisé peut-être que la dimension vraiment artistique, en fait, du jeu vidéo, parce qu'avant ça, c'était un passe-temps. Avec FF7, c'est là que moi j'ai réalisé que c'était d'autres choses que juste un passe-temps. Ça pouvait venir te chercher des tripes. Fait que c'est pour ça que je me suis fait tatouer ça. ouais, c'était très, très osé aussi de te faire jouer un personnage pendant 10-15 heures puis de te l'enlever complètement.
Oui.
C'est parce que tu t'es attaché à ce personnage-là, tu sais. Justement, l'immersion était bonne, là, tu sais. Ils ont mis le paquet là-dessus puis là, t'étais lié là, à cette histoire-là. Puis là, soudainement, on te l'enlève dessus les pieds dans une belle cinématique où est-ce qu'elle meurt, en plus. Bon, comme Alex l'a dit, ça a mal vieilli. Là, puis...
Mais c'est pas si mal.
Mais dans ce temps-là, pour vrai... les polygones, il n'y avait rien de plus réel que ça.
Puis cette cinématique-là aussi, je pense, à cause de tout l'affect émotionnel, le bagage émotionnel, je l'ai regardé récemment, puis comme, c'était pas... Le feeling était là toujours, là.
Ouais. Non, pas... c'est ça, c'était
bien... symbolique plus.
Ouais,
que...
clairement. Ben, c'était bien fait, là, l'histoire était juste tellement bien ficelée. Là. Ils n'ont pas toujours réussi, en fait, Final Fantasy avec l'histoire, j'ai l'impression. T'sais. Des fois, elle était un petit peu comme. Ok.
Mais non, je suis pas d'accord, mais ça dépend à quel point ça va te chercher aussi. Je sais pas,
c'est sûr que là, on peut parler de typologie de joueur. Là, puis...
Non, mais oui, mais moi, je pense qu'il y a un Final Fantasy pour tout le monde.
Ah, oh, c'est beau
ouais.
ça.
Ouais.
C'est-tu la deuxième chose cute que je dis?
C'est pas plus cute c'était que qu'est-ce que t'as dit tantôt. Non, qu'est-ce que t'as dit tantôt, c'était directement dessus.
Ouais. Petit gars qui joue dans Récré, là, c'est dur à battre.
Ouais, ouais. J'avoue.
Parlons-en de FF15. Parlons-en de FF15.
Oui, parlons-en.
Ouais.
J'ai un plan.
Qu'est-ce qui se passe avec FF15? Excusez, là, parce que là, moi, j'ai décroché à 2010.
T'es-tu encore flabbergast avec la moustache de...
Oui, je suis en train de passer beaucoup de temps avec sa moustache, effectivement.
Je te vois browser sur le web.
Je fais des print screens de toutes les moustaches, c'est malin. J'ai jamais autant de fun de ma vie. Je trouve ça weird que tu l'aies mentionné en ondes, mais this is what's going on. Final 15, parlez-en
oui,
comme
Final
je dis.
Final 15, ouais. ben oui. Final Fantasy 15, c'est le premier Final Fantasy que j'ai acheté depuis le 13. Oui, Rion du 13.
Mais non, pas trop.
Non,
mais...
moi je riais parce qu'il y a juste le 14 qui est sorti entre temps, puis c'est un MMORPG, donc c'est comme.
C'est pas vrai, j'ai joué au 14. En fait, j'ai joué au 10, 12, 13, 14, 15. Et juste le 13, j'ai pas joué à 13, 2. Hein, parce que. Les Japonais, la numérotation des JRPG, c'est pas le DR.
On parlera pas de Kingdom Hearts.
Moi, je m'en allais en parler justement. On n'aura pas le choix d'en parler, en fait, je pense, de Kingdom Hearts, mais on y reviendra. Oh. Mais le 15, c'est probablement le premier JRPG que j'achète depuis longtemps. Je suis pas JRPG. Je suis pas comme Loïc qui trippe sur Tales.
Allô.
Qui trippe sur tout. Je sais pas, il y a pas de grand JRPG que t'aimes pas. T'aimes-tu Persona? T'aimes-tu juste
ça? Non, Persona, je sais pas. Non, mais j'aime vraiment Tales.
Ok, genre... Tales. Mais je suis vraiment pas JRPG dans la vie, ok? Moi,
t'as le droit de le dire.
Moi, je suis un gars de GTA, ok?
Safe space.
Excusez.
D'ailleurs, je suis vraiment fâché que tu ne puisses pas conduire librement la voiture dans FF15, mais ah ouais, ça va bientôt être changé dans une patch. Ceci étant dit, Final Fantasy XV, c'est un bon jeu avec un nombre incalculable de défauts, mais c'est sans doute l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué toute ma vie.
C'est vrai?
Ouais.
Wow!
Mais c'est tellement intéressant, ça.
Donc là, moi, je vais être le seul à pas parler d'un jeu qui est mon préféré de toute ma vie, genre.
Non, mais c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué dans toute ma vie, mais même pas pour le gameplay, même pas pour l'histoire qui est un peu du réchauffé de tout ce qui a été fait dans Final Fantasy. C'est vraiment pour les personnages puis les liens d'amitié qui existent entre ces quatre gars-là.
Ouais, mais
moi, ça vient me chercher là, pour... probablement parce que dans la vie, je t'ai mis avec des gars, puis tu sais, les scénaristes, les auteurs de ce jeu-là ont su capter l'essence même d'une bromance.
C'est Final Fantasy Bro, c'est ça que j'allais...
Ouais. Mais c'est parfait, là, tu sais... Noctis, qui est un amateur de pêche, bon, c'est l'héritier du trône, mais pour une raison qu'on ignore, c'est un amateur de pêche. Des fois, il pêche des poissons. Il dit, hey, that's a small fish, puis un de ses amis qui dit, that's what she said, ou un truc du genre, pis t'es comme, c'est excellent, là. C'est ce que quatre bros se disent dans la vie, dans un road trip. C'est parfait. Moi, je trouve que c'est parfait. Système de combat, amèrement déçu. J'ai vu des articles qu'un certain boss fight, éventuellement, là, spoiler alert, mais je me sens pas vraiment mal parce que ça fait déjà 3 mois qu'il est sorti.
Mm-hmm. Mais à un moment donné, vous avez pas fait le 40 heures?
C'est common. Ouais. Mais il y a un boss fight à un moment donné que c'est contre Aranya Iwin. C'est supposé être le boss fight le plus épique de l'histoire de la série. Puis je pense que ça m'a pris 2 minutes mm-hmm. en gardant mon doigt appuyé sur cercle pour battre le boss sans esquive, sans bloc, peu importe. Au niveau de la nourriture, parce qu'il fallait que j'en parle, la nourriture a l'air appétissante. Je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça. Mais c'est surtout
Non, tu recommences ça. c'est pas la nourriture est appétissante.
La bouffe est tellement bonne, Jean-Michel. Dire un steak de chocobo, là.
Oh, ouais.
That's wrong.
Ouais, c'est ça.
Ouais, le chocobo, non.
I wanna eat my chocobo all day.
Can't get it out of my head!
Mais non, mais en fait, c'est probablement la mécanique liée à la nourriture qui m'a impressionné le plus dans ce jeu-là, parce que non seulement c'est, je crois que ça a jamais été fait auparavant, mais Final Fantasy, ouais. Parce que je veux pas parler à travers mon chapeau pour le reste des jeux dans le monde, mais ça aurait créé un peu ce feeling là de groupes de donjons et dragons, d'aventuriers, ouais. Qui sont en plein milieu, qui peuvent pas se rendre à une ville à ce moment-là, sont en plein milieu d'une plaine sauvage remplie de dinosaures, mm-hmm. Ils savent pas trop quoi faire, ils campent. À ce moment-là, ils peuvent choisir de cuisiner certaines recettes qui vont booster leurs caractéristiques. Et bon, ils vont avoir des discussions des fois avec certains membres. Bon, ça, c'est quand même intéressant. Puis l'expérience que tu gagnes, ben tu peux seulement la dépenser pour monter des niveaux si tu justement si tu fais le campement. Si tu fais pas ça, si tu dors pas, ben tu continues à te battre pour pas grand chose, mais c'est ça.
Mais par rapport à la bouffe, ouais. Pas la bouffe, mais l'aspect, on va dire, survival en général. Ouais. Personnellement, ça me gossait justement, parce que je trouve que l'aspect tout survival, road trip simulator, tout ça, ça détache le Final Fantasy de son aspect, on va dire, plus narratif, plus axé vers l'histoire.
Ouais.
Genre, je trouve vraiment que c'est comme si Final Fantasy avait dit « Ok, c'est le fun, les mondes ouverts, ça marche présentement, GTA, Skyrim, ouais. Je pense qu'il y a le nouveau qui a été annoncé. » En tout cas, ça marche, on va faire un monde full ouvert. Puis c'est ça qu'ils ont fait dans Final Fantasy, c'est le premier où l'espace est où il y a un grand espace que tu explores, il ouais. y a aucune transition à aucun moment là. Mais je trouve que du coup, il y a une espèce de continuum entre on va dire un jeu qui est plus linéaire puis qui va être plus narratif ouais. parce que ben du coup tu peux raconter une histoire plus développée si tu mènes ton joueur ou ta joueuse, on va dire pas par la main là, mais
ouais, ben,
si tu le traces un chemin.
Tu y traces un chemin approximatif pour mener du point A au point B. Là, ouais, on s'entend.
Puis à l'inverse, c'est ça, je trouve que Final Fantasy est à fond. Ben, je suis pas à fond parce que bon, il y a quand même une histoire plus que dans, je sais pas, GTA ou n'importe quoi.
Mais... on pourrait s'astiner longtemps ouais, là-dessus. Tension avec celui d'accord. C'est un sujet sensible.
On va juste, je vais m'en tenir aux autres FF. Et plus, on va dire, du côté du monde ouvert, puis moins, vraiment moins du côté narratif que les autres Final Fantasy. Puis pour appuyer ça, je vais même parler du fait que c'est le premier FF qui est à ce point-là, on va dire, transmédiatique. Que comme pour comprendre l'histoire au complet, il y a une grosse partie de l'histoire qui est racontée par d'autres médias qui ont été publiés en même temps, parce qu'on peut parler de la FF7 puis compilation, mais comme tu parlais justement des relations entre les personnages, je les comprenais pas avant de voir Brotherhood, l'animé.
C'est ça, mais c'est le premier Final Fantasy qui était à l'intérieur d'une franchise transmédiatique, mais synchronique à l'inverse de Final Fantasy VII, parce que tout ce qui est autour de Final Fantasy VII, il est self-contained. Tu peux jouer à Final Fantasy VII, mm-hmm. merci, bonsoir, c'est fini. Ouais. Le reste alentour, c'est du crémage, ouais. c'est du flavor.
100%.
Mais Final Fantasy XV, si t'as pas regardé les autres choses autour, si t'as pas regardé la série d'animé Brotherhood, si t'as pas regardé le très mauvais film Kingsglaive, tu ne comprends absolument rien. Ou du moins t'en manques une bonne
partie. T'as une grosse moins, ouais. Un gros plaisir d'expérience qui passe.
C'est très juste. Je dirais aussi que c'est le plus méta des Final Fantasy.
Oui.
C'est un des premiers Final Fantasy qui te rappelle que t'es en train de jouer à un jeu, j'ai l'impression, tu sais. Comme des photos que tu peux sauvegarder puis sharer sur Facebook à travers ta PlayStation. Quand que les gens ils campent dehors, il y a comme des gros logos de Coleman sur la tente puis sur les chaises. Tu sais, ils ont vraiment comme brisé la barre.
La bille, ça.
Dans l'auto, tu peux écouter toutes les soundtracks de toutes les Final Fantasy passées.
Une pipe de coke dans Kingsglaive, je pense, quelque chose comme ça dans la ville.
Je pense que oui. Woody a créé spécialement.
Oui, c'est
une R8, si je me souviens bien, mais a créé spécialement une voiture édition spéciale Final Fantasy XV qui existe en vrai. Il y a un seul exemplaire dans le monde, mais on la voit dans Kingsglaive.
Ok, moi ça me donne un mauvais goût dans la bouche.
C'est des cas limites parce que moi je t'attendrais quand Prompto chantonne la fanfare de victoire à la fin d'un combat.
Ouais, pour ces petits trucs là, tu sais, la métafiction version light, ouais. Mais là, ça a l'air d'être comme aussi vulgaire que le product ouais. placement dans Wayne's World.
Ça, ça m'a turn off, en fait, de l'histoire. Le gameplay puis le pacing, j'ai trouvé bon. Puis l'interaction entre les quatre personnages, le bromance, puis le voice acting est débile, honnêtement.
Ouais, oui. Ouais, c'est excellent. Puis, c'est peut-être pour ça aussi que le bromance vient me chercher autant, parce que c'est parfait, là. T'as pas l'impression que c'est cheap, forcé, c'est super naturel. C'est quatre bons chums qui se connaissent depuis des années. Puis
même la narration émergente, du sens que, justement, comme tu disais, tu choisis un peu ce que tu fais dans ce jeu-là. Fait que si tu veux pas faire la main mission, ben, tu fais tout à part ça. Puis bon, ben là, ça fait une journée au complet que tu te promènes sur la route, puis là, faut que tu campes ici et là. Puis, mais même ça, tu sais, j'étais capable de passer à côté. C'était vraiment qu'à la fin de chaque soir, il me demandait quelle photo je voulais sauvegarder pour mettre sur Instagram, puis puis que je voyais le petit logo de Coleman, puis que dans le char, ben le système pour changer la musique est vraiment ouais. vraiment mal fait d'un, fait que ça fait que tu passais ouais. à travers toutes les tunes des vieux Final Fantasy. Moi ça m'a turn off.
Ouais.
J'étais plus dans l'univers que Curry essaie de créer, j'étais comme dans les autres univers des Final Fantasy passés ou dans le mien.
Pour la sélection des chansons, tu sais. Bon. Ils ont pas d'excuses, mais ils vont probablement changer ça là, dans les prochains
correctifs. Ah, c'est sûr que ça va se patcher avec le
temps. Ouais. De toute façon, c'est pour une. En fait, ce jeu-là, c'est un mystère, parce que ça aurait dû être vraiment meilleur après 10 ans d'enfer, de développement.
Ça a été annoncé en 2006, c'est vrai.
Ouais. Ah. J'étais encore au secondaire et j'étais vierge. Okay? Ça fait vraiment longtemps. C'est mon running gag. Non, mais ça me fascine. Je comprends pas. Ce jeu-là a été annoncé dans le temps que la manette de la PlayStation 3 c'était censé avoir la forme entre une banane et un boomerang. Ça s'appelait encore Final Fantasy Versus 13, qui était censé être un spin-off de Final Fantasy 13.
Donc, ça fait, pour clarifier, est-ce que ça fait en sorte qu'il y a plusieurs studios qui travaillent sur des jeux différents, puis quand ils arrivent à complétion, ben là, ils font comment? On est rendu au 86, fait qu'on met 86. C'est ça? Parce que c'est pour que ça prenne autant de temps.
C'est ça la question.
Ben, pour que ça, vous dites là, essentiellement, que ça a pris 12 ans à faire le jeu. Là.
Ouais, ouais. 10.
Ah, le fait qu'ils ont choisi de l'appeler 15.
Mais c'est ça.
Ouais, dire, 2006, ouais, ça, c'est arbitraire, ouais,
c'est
je pense.
C'est ça, c'est ouais, que ça. Ouais.
Ils étaient rendus au 15. Il y en avait peut-être 3-4 qui étaient en train de se préparer en même temps, puis ils en ont mis un de l'avant versus un autre.
Fait que c'est comme celui-là qui s'est complété. Le projet qui s'est complété en 11e devient Final 11, puis mais le projet qui s'est complété en 14e, c'est devenu Final 14.
Mais ouais. C'est aussi que à l'origine, comme disait Alex, ça devait être vraiment un spin-off, ça devait pas être comme un opus ouais. en lui-même. Ouais. Mais là, finalement, ils ont tellement travaillé dessus, puis aussi à l'origine, spin-off, donc dans la mythologie, vraiment dans le monde. Même à un moment donné, quand ça devait être le 15, ils disaient que ça allait être dans la mythologie Fabulous, cristallin.
Fabula, Nova, Cristallis, un truc genre plusieurs mots en latin avec cristal, parce que qui dit Final Fantasy dit cristal.
Ouais. Évidemment.
On va y revenir, mais...
Donc ça doit être vraiment être dans la mythologie, dans l'univers du 13, même si c'était plus un spin-off, même si c'était rendu le 15 en tant que lui-même. Ouais. Puis finalement, ça, ils l'ont comme enlevé. Ben, il y a toujours, il y a des références, mais c'est plus, il y a sa propre mythologie, il y a pas Lightning qui vient dire allô, genre.
Non, c'est ça. Non.
OK. Ah, mais c'est intéressant, ça, parce qu'il y a, des degrés variables d'être capable de faire des connexions entre les jeux de cette manière-là. Il y a pas tous les jeux sont connectés, mais certains jeux sont connectés ensemble par des éléments différents.
Maintenant, oui, ça a commencé vers la mi des années, genre moitié des années 2000, ils ont commencé vraiment là, au lieu de, parce que jusque-là, toutes les Final Fantasy étaient différents.
Oui, c'est ça, il y avait aucune connexion.
Il y en avait jamais de connexion. Ouais. Puis après ça, ils ont sorti 10-2, ils ont sorti les produits périphériques au 7.
Ouais.
Final Fantasy Tactics se passe dans une place qui s'appelle Ivalice, puis le 12 c'était aussi dans Ivalice.
Ouais. Okay.
Fait qu'ils ont commencé à recycler un peu plus le lore qui est si bien construit quand même, tu sais, je veux dire, il manque pas de jus pour les jeux, mais c'était la première fois quand... Ben, c'est la première fois. Dernièrement, ça fait quelques fois qu'ils commencent à réutiliser...
Mais en même temps, on dit réutiliser, puis Final Fantasy, c'est juste ça, là. C'est une réutilisation incessante de référents inévitables. Tu peux pas avoir de Final Fantasy si t'as pas de cristaux. Tu peux pas avoir de Final Fantasy si t'as pas deux factions qui s'opposent. Ça va clasher.
Je veux dire, tu sais, d'un point de vue comme dystopique, peut-être, là. Genre d'un point de vue comme, tu sais, high level, tu veux dire, l'histoire. Mais j'ai quand même l'impression que, tu sais, le système de combat, il rajoute toujours quelque chose de nouveau.
Ouais.
Il y en a jamais un qui a été vraiment pareil à l'autre. Ben, il essaie quand même que l'histoire à l'aide des twists and turns que t'as jamais vu. Ouais. Puis j'ai quand même l'impression qu'il essaie d'infuser un peu de freshness avec chacun des jeux, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que genre ça reste Good vs Evil au bout du compte aussi.
Ouais, Good vs Evil, mais il y a rien de blanc pis noir finalement, là, comme dans toutes les Final Fantasy. Ouais, ça finit toujours comme ça. C'est comme ça commence clairement le bien et le mal, ça l'est pas finalement. Je pense à Final Fantasy X que à la fin. C'est pas trop clair.
Ouais, c'est vrai. Là,
Cloud.
Ça devient plus philosophique Cloud, avec le temps.
Cloud dans Final Fantasy VII, c'est pas le héros par excellence.
Non, c'était un anti-héros. C'est un presque,
anti-héros.
Puis
ben,
il se questionne tout au long du jeu. C'est ça. Puis il parle pas. Est-ce qu'il dit des mots, Cloud? Peut-être.
Cloud, il parle.
Oui, il parle.
Cloud, il parle.
Ben, il parle.
Ouais.
De peu de mots.
Et il parle autant dans Advent Children de toute façon, ouais. Fait que c'est pas super grave.
Mais ouais, c'est vrai. Il y a des archétypes, disons. Là.
Ouais.
Ouais, ben, justement, les archétypes, je pense que le 15 était celui qui faisait le moins de références aux archétypes de classe de Final Fantasy, je dirais. Même dans le 13, même si les personnages avaient chacun leur, on va dire. Leur personnalité puis tout, ben avec le système de Paradigm Shift, tu leur attribuais les rôles comme healer, defender, attacker, blablabla.
Ouais.
Puis dans le 15, t'as plus ça. Je veux dire, t'as Prompto qui est clairement genre qui tire du gun.
Ouais, ben tu sais, t'as Gladio qui est genre le warrior, bruiser, tank. Tu sais, à la limite, Ignis, t'as comme le tactician.
Support.
Spellcaster, parce qu'il peut genre...
Mais je trouve que c'est moins clair.
C'est moins clair? Ben c'est parfait, là. Je veux dire, c'est un Final Fantasy moderne. C'est les délimitations entre des classes... Bon, là, prenez ça avec des pincettes, là, c'est chose du passé, mais tu sais, je veux dire, il y a de plus en plus de jeux qui tendent justement vers le multiclassing, puis ça rend ça un peu plus intéressant.
Mais c'est moins chose
comme
du passé.
Mais plug facile!
Dans les choses du passé, ben justement, ils vont sortir un remake du 12, puis là, je trouvais ça...
Ouais, cet été.
Mais ils vont réintroduire un système de job class dedans. Donc c'est pour ça que je trouvais ça drôle de justement ce mouvement-là de parce qu'en effet dans le RPG ben JRPG je sais pas pour le RPG occidentaux là mais pour le JRPG ils tendent à créer des trucs un peu séparés là genre
RPG occidental je pense qu'ils ont mis ça de côté pour bien des jeux là moi j'ai juste des ben, à la limite t'as une classe là mais t'as 12 000 skill tree puis finalement il y a pas un personnage qui se ressemble
tu sais
je pense à Mass Effect que c'est ben t'as des paradigmes prédéterminés, mais finalement, tu fais un peu tout, tu te concentres plus sur X truc, Fallout, Skyrim, c'est toute la même chose. T'as un arbre de compétences hyper complexe qui font que t'es pas une personne, t'es genre le héros de ta destinée.
Ben, Skyrim, vu que t'es tout seul, c'est... Ouais. Ben, t'as des compagnons, là, mais vu que t'es tout seul, c'est différent que les JRPG où t'as tendance à être en gang, là.
Il y a comme une notion de tactique, en fait, qui s'est comme greffée au RPG, j'ai l'impression, qui fait que ça, c'est un peu vrai, tu sais.
J'ai une citation.
Genre le branching de trucs comme ça, ouais, t'as une citation.
Ouais, de justement, du gars dont tu parlais tout à l'heure, Yoshinori Kitase, là, ouais. Qui disait, j'avais trouvé ça drôle, Final Fantasy n'est pas un jeu où l'on saute. Point. Mais ce qu'il voulait dire par là, parce qu'il voulait dire quelque chose d'intelligent malgré tout, malgré les apparences, c'était que pour lui, Final Fantasy, bien que, comme tu l'as souligné, c'était lui qui avait vraiment amené l'aspect cinématique dans les FF, pour lui, FF était indissociable de l'aspect tactique. Donc, quand il disait « n'est pas un jeu où l'on saute »,
c'est pas un jeu d'exécution, c'est pas un jeu de Twitch, là, c'est un jeu...
Exactement, puis je trouvais ça éloquent. Que dans FF15, tu sautes.
Ouais, mais tu peux activer un mode qui est un peu plus tactique.
Oui, le wait mode.
Ouais, le wait mode.
Mais c'est plus un artefact qu'un...
Ouais.
Puis, honnêtement, le wait mode me gosse terriblement, là, parce que je veux ramasser des plantes, mais là, le wait mode s'active parce qu'il y a un mammouth tout paisible à côté, puis je peux plus ramasser ma plante, là.
C'est une belle phrase pour quelqu'un qui comprend pas penser de quoi tu parles. J'aimerais ça aller chercher des plantes, mais il y a un mammouth à côté de moi.
On parlait justement de l'aspect survie tout à l'heure. Bon, faut chasser des animaux.
Non, je préfère pas que tu démystifies pas ça. Non, je préfère garder
ça. Parfait, on garde le mystère.
Mais c'est un très intéressant argument sur cette rupture-là. C'est qu'il y a quelqu'un il y a un des créateurs qui dit, il y a une ligne directrice, puis il est comme, ah, ouais, pas là.
Ce qui m'a grippé là, un peu du 15 aussi, c'est que j'ai l'impression que c'est un jeu qui se cherche. Ils ont vraiment ciblé ce qu'ils voulaient au niveau des personnages, puis les interactions entre les personnages. Mais Ils ont clairement comme rajouté le fait que c'était open world. Ils ont clairement rajouté le fait que, tu sais, ils ont mis une twist Game of Thrones parce qu'ils savaient que c'était populaire. J'ai l'impression que c'est un jeu qui
est... Il y a même Sean Bean qui joue le roi dans Kingsglaive. C'est pas une blague.
C'est tellement drôle.
C'est pas une blague.
C'est même pas une
spoiler,
blague.
Il meurt. Sorry. De toute façon, vous le savez après les deux premières heures de gameplay. Fait que
puis sa mort est présentée justement dans le jeu en prenant... copier-coller une scène de Kingsglaive
carrément.
J'ai toujours eu l'impression que les Final Fantasy, c'est comme ça faisait 4 ans qu'ils concevaient le jeu, que quelqu'un avait dans sa tête, mais celui-là, j'ai l'impression que c'est un jeu qu'ils ont fait comme, qu'est-ce qui fonctionne en ce moment?
Mais je sais pas, moi j'ai...
Vas-y.
J'ai l'interprétation comme un peu inverse, mais pour le même résultat, j'ai l'impression que c'est un jeu qui avait énormément d'ambitions, mais des ambitions qui étaient irréalisables, genre des ambitions de réalisme parfait.
C'est plein de demi-promesses un peu, peut-être.
Ouais, ben genre le réalisme, comme tu parlais des... Ben Alex parlait du réalisme de comme être en road trip avec tes boucles et tout. Genre, oui, ça marche vraiment, mais comme parfois, il y a des petits détails, genre quand ça fait 2 jours que...
Tu répètes la même chose.
Quoi? Ouais, que je fais genre la même chose en train de chasser pour me faire de la bouffe, parce que la bouffe... aussi, ben Alex a parlé rapidement que c'est important, mais c'est tellement important, je veux dire, t'achètes une épée, ça te coûte genre 100 guilds, la monnaie de jeu, puis tu veux t'acheter un steak, ça te coûte genre 500 guilds, là. C'est ridicule l'économie dans le jeu-là, je sais pas comment ça marche, mais en tout cas...
C'est une économie post-Trump.
Ouais, c'est ça. post-conquête, en tout cas.
Des guns pour pas cher, puis de la bouffe
pour très cher. Mais tout ça pour dire que, comme par exemple le réalisme aussi graphique, le réalisme visuel est particulièrement poussé, genre, mais... C'était comme une espèce de promesse, genre Kingsglaive aussi, faite avec tout le motion capture puis genre action virtuelle. Mais il y a des trucs irréalisés. Par exemple, les cheveux. Les cheveux, il dit « Ah, on va animer chaque cheveu séparément. Comme ça, quand ça va être dans le vent, ça va être vraiment magnifique. » Mais le résultat est horrible parce que le liaising est juste pas capable. Donc, du coup, t'as l'impression qu'ils ont greffé un escalier dans les cheveux des personnages. Puis c'est vraiment horrible. Mais c'est ça, c'est vraiment une promesse avec de la technique poussée à fond. Mais que finalement, c'était juste... Ils avaient pas les moyens, puis j'ai l'impression que tout le jeu, c'est ça.
Ça aussi, j'ai l'impression que ça a été tacked on, parce que Witcher a fait ça, tu sais, j'ai l'impression...
Les cheveux?
Ouais.
Ah, je savais pas.
Fait que, mais tu sais, le Witcher, c'est un jeu PC aussi, par exemple, fait que les autres, ils peuvent se permettre ce genre de choses-là, mais c'est pour ça que j'ai l'impression que comme ils ont comme pigé qu'est-ce qui était comme les buzzwords du moment, genre open world, transmédiatique, nanana, tu sais, puis genre, ils ont fait un jeu...
Survie.
Placement média.
Ça, c'est un buzzword qui est hyper présent dans les JRPG. Ben, on va mettre ça en guillemets un peu parce que le prochain Zelda, là, pour ceux qui suivent un peu l'actualité vidéoludique, le prochain Zelda, Breath of the Wild, qui sort la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Parfait, l'émission va être finie pour la plupart d'entre nous ou d'entre vous. En tout cas,
en rédaction.
Moi, je suis en rédaction, pas grave. Chut, on le dit pas. Mais il y a un aspect survie. En fait, le jeu survie a eu un buzz, peut-être.
Ben en France, ça marche toujours beaucoup.
Ouais, c'est ça, mais j'ai l'impression
Daisy,
que le
H1Z1,
c'est ça, mais j'ai l'impression que le boss c'est comme estompé un peu parce que Daisy c'était big, Ark le genre de jeu de dinosaure post-apo, c'était gros, Rust, j'en passe. Il y a eu un buzz, mais on dirait que là le Japon ils viennent de se réveiller, ça vient d'arriver au Japon, ils prennent ça, ils prennent les aspects survie. Tu vas voir la même chose là dans Zelda, dans le prochain Breath of the Wild. Ouais. Il faut chasser, cuisiner, il faut comme dompter des chevaux pour pouvoir les monter, tu sais, des trucs comme ça, mais c'est juste en fait en plus. Je pense que tu voulais parler de Skyrim un peu. Je pense que on n'est pas obligé d'en parler. C'est pas super bon, excusez. Les créateurs de Zelda l'ont dit clairement. On a pensé à Skyrim en faisant Breath of the Wild. Et j'ai l'impression que les Japonais essaient de faire ça, mais ils greffent ça à des éléments qui ne fonctionnent pas justement avec cette idée de monde ouvert, de survie. Ça fonctionne pas
mais
super.
Mais comme Tales of, pour sortir, mais revenir au JRPG, Tales of a eu sa partie open world avec Tales of Zestiria. Autant Tales of Zestiria a eu des critiques immondes sur ce qui était sur la narration, sur l'histoire. L'histoire, c'est littéralement, t'es le héros naïf qui veut prendre tout sur ses épaules puis tu sauves le monde du grand méchant. C'est littéralement ça l'histoire, alors que d'habitude, les Tales of puis les jeux RPG, il y a une twist. Mais Tales of, c'est essayer avec Zestiria au open world, de faire des grands espaces à explorer avec des trucs interactifs un peu partout. Puis je trouve que ça, il l'a bien réussi parce que... c'était pas faire tes affaires toi-même. Tu sentais en évoluant dans le monde que ça avait quand même été préparé pour que tu suives quelque chose. Par exemple, tu te ramasses avec un portail genre sombre, puis là, ils te disent « Ah, il y a ces portails sombres qui ont été ouverts il y a 500 ans parce que si et ça, faut que tu les trouves tous. » Donc là, ça va vraiment t'encourager à explorer le monde.
Mm-hmm. C'est pas comme dans genre Oblivion, ça?
J'ai pas joué.
Mais le danger les open world en général, en fait, c'est que si tu permets aux joueurs de se tasser de la main track de l'histoire, il faut qu'il y ait du filler pour que les gens aient l'impression qu'il y a du contenu.
Ouais.
Fait que, ouais, ben c'est ça, tu sais.
Si je me retourne de bord, je veux pas avoir juste du sable. Ouais, J'aimerais avoir des jouets dans le carré de sable.
Ben, c'est ça, tu sais. Puis, fait que pour rendre genre que. Pour que t'aies l'impression d'être en train de vivre ta propre histoire, il faut qu'ils mettent du filler comme du cooking, comme du survival, comme du tue le mammouth ou trouve la grotte, ou tu sais. Il faut qu'ils mettent des trucs en périphérie qui sont évidemment moins intéressants que ce qu'ils ont construit de toutes pièces scriptées pour la main storyline, qui doit de donner l'impression comme si « Wow, ça fait genre 30 heures que je suis en train de jouer à ce jeu-là, j'ai même pas fait la première quest. »
Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même assez compliqué de faire beaucoup de petits storylines derrière alternatifs, là, tu sais, c'est beaucoup de travail.
C'est beaucoup de contenu, puis surtout que la plupart du temps, c'est tout voice acté aussi, là.
En plus,
Le procédural est comme difficile à faire avec ça, puis le procédural, rapidement, tu t'en rends compte que c'est l'ordinateur qui est en train de te créer des affaires, tu sais.
Ouais.
Un peu comme Skyrim m'a fait. En fait, rapidement, t'étais comme, OK, mais c'est même pas rapport. Il me demande d'aller voir quelqu'un que j'ai tué. Puis, en tout cas, c'est des affaires dans même. Mais, fait que c'est ça le danger avec l'open world. Puis j'ai l'impression que, tu sais, toutes les open world qui s'en viennent, parce qu'effectivement, c'est le buzzword du moment, ils ont tous un peu de.
Ils vont avoir ce problème-là.
Il n'y en aura pas d'excellent, parce qu'ils vont toujours avoir du filler content.
Mais je prévois que justement, peut-être. Après le FF15, il va y avoir une espèce de retour de balancier.
Mais c'est, tu sais, je veux dire, le FF7, est-ce qu'il était open world,
Ça dépend.
Tu pouvais te promener, il y avait des gates, tu sais, c'était une illusion d'open world, puis c'était tellement efficace parce que les gates étaient bien placés.
Ça, c'est que les FF, avec la map monde, ça permettait d'être open world dans le sens que, genre, à peu près à n'importe quel point de l'histoire, ben, sauf exception,
tu pouvais
aller ailleurs.
Du chemin principal.
Mais tu pouvais jamais avancer comme une storyline qui était pas la main, tu sais.
Non,
il te loquait dans des zones puis il te forçait à passer à travers tel ou tel choke point pour continuer, tu sais. Fait que je pense que il va y avoir, comme tu dis, un retour du balancier, peut-être vers des trucs plus linéaires où les open world, ils vont commencer à plus utiliser justement comme une illusion d'open world au lieu d'essayer vraiment de pousser des mécaniques open world.
En tout cas, dans Tales of, le dernier est sorti presque en même temps que FF15, puis donc c'était pas Zestiria, c'est le suivant, qui se passe techniquement, je pense, 2000 ans avant Zestiria, puis son but assumé, c'est de réparer Zestiria. Donc, sur le plan de l'histoire, elle est beaucoup plus complexe, puis elle explique des points, puis elle complexifie l'histoire. Puis sur le plan du monde, justement, c'est plus linéaire. Juste en regardant les maps même, tu le remarques que c'est plus des grandes plaines, c'est genre des choke points, on va dire, paysagers, genre, presque claustrophobiques. Mais justement, ça, le monde a quand même plus apprécié ça, parce que même si le monde est modélisé de manière plus, on va dire, restreinte, tu peux quand même aller et venir à peu près où tu veux quand tu veux. Donc le monde aime les fans de Tales of aiment cette espèce de compromis là.
Excellente émission. Excusez-vous, je dois conclure. On a fait notre 60 minutes. Merci énormément, Loïc. Merci.
Ça fait plaisir.
Alex, Chris, c'est toujours extraordinaire. Je vous ai promis la toune de Tifa au piano et je vais vous donner
la moustache
de Tifa au piano. Bonne semaine tout le monde, bonne écoute.